Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 18 août 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer...
Ouais, maintenant
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV.
Et ensuite...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires à l'infirmerie.
Tu as de...
Le festival Jindou en direct, donc Radio FMR est en direct de 15h à 17h. À 17h, c'est le retour des programmes normaux avec Big Bang, Vie d'ordure, Made in Trans, la 7 euros expérience et 9 Love. Vous écoutez FMR, nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
On parle pas la bouche pleine. Bonjour du sport.
Bonjour.
C'est du sport qui a amené les pâtisseries et les boissons. Et j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas parler, fallait pas amener de bouffe pendant une émission de talk. Ça fout tout en l'air. C'est le supplément week-end. Programme un petit peu lourd aujourd'hui. Et en plus, un direct téléphonique impromptu. Vous verrez ça tout à l'heure. En attendant, on va se lancer avec. Quelque chose qui va chauffer un peu quand même, parce que je sais qu'on n'est pas franchement en été, mais ce serait bien quand même de mettre Ghetto Music par Outcast.
Thank you.
Ben, vous seriez gentil, s'il vous plaît, de déglutir avant qu'on prenne l'antenne, ce serait bien, hein. Les gâteaux, c'est sympa, mais quand même. Bonjour et bienvenue, donc, c'est le supplément week-end. Thomas, la forme?
Ah oui, super.
Laisse-moi deviner, t'as un film, je vais dire, sur la condition de réfugié et un autre sur...
Sur la jaunisse.
Sur la jaunisse, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça. Du sport. Ça va bien?
Ouais.
Cool. Il y a actuellement un débat qui est en train de commencer.
Il me coupe alors que je suis en train de lire la...
Ah, la BD de l'équipe
la
magazine.
La page BD dans l'équipe magazine.
Ça, faut c'est la culture. Faire. Merci les enfants. Il y a actuellement un débat qui secoue la bande dessinée franco-belge, et plus exactement la bande dessinée belge en elle-même. Elle concerne une des bases de la culture de bande dessinée européenne. Il s'agit d'un album qui s'appelle Tintin au Congo, qui pour certains est le premier album qu'a sorti Hergé, même si avant ça, d'ailleurs c'est marrant, c'est assez peu connu justement, et pour cause, eh ben il y a eu Tintin au pays des Soviets.
Et nous ouais, la différence c'est que Tintin au pays des Soviets, je crois, n'était pas sorti sous la même forme que Tintin au Congo puis les autres, c'est-à-dire sous forme d'album cartonné, mais c'était sorti sous forme d'épisode dans un journal.
Du sport.
Oui.
On a par téléphone Didier Passamoni, qui est éditeur adjoint d'actuabd.com, et je sens qu'on va en prendre plein la tronche. Didier, bonjour.
Bonjour. Oui, effectivement, j'entends plein de contre-vérités, donc...
Là.
Donc, effectivement, faut rectifier ça. Donc, Tintin au pays des Soviets est le premier épisode de Tintin, qui a été publié le 28 février 1929 dans un quotidien belge qui s'appelle Le 20e siècle, dans son supplément intitulé Le Petit 20e. Quand l'épisode a été terminé, il y a eu un album dès 1930. Donc Tintin au pays des Soviets est sorti en 1930 en librairie. C'est en revanche après la guerre que l'album n'a plus été distribué. Il a fallu attendre 1985 avant qu'on ait une nouvelle édition, et encore c'était sous la pression des éditions pirates qui paraissaient ça et là, et qui avait fait que Casterman et Hergé avaient décidé de publier Tintin au pays des Soviets. En revanche, la suite, c'est Tintin au Congo. Ça a commencé en décembre 1930 et ça a continué jusqu'en 31. Et l'album est sorti en 31. Et lui, il a été publié sans discontinuer depuis 1931. Non. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça se passe en deux temps. En premier temps, c'est en Angleterre, où au mois de mai dernier, un couple d'acheteurs dans une librairie qui s'appelle Borders and Waterhouse décide de consulter la commission pour l'égalité des races, la commission britannique pour l'égalité des races, en lui soumettant Tintin in the Congo. Et en disant, est-ce que c'est licite qu'un album aussi horriblement raciste soit distribué en librairie? Et donc, il y a eu un jugement qui a été rendu par cette commission le 12 juillet, et dans laquelle la commission disait que c'était un album qui dépassait tout entendement, qui était horriblement raciste, qui faisait parler les Noirs comme des imbéciles. La recommandation de la commission a été de placer l'album dans le rayon adulte. Donc ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, là ça se passe en Afrique du Sud, où l'éditeur africain du Sud de Tintin, qui s'appelle Human and Rousseau, s'apprête à publier une version de Tintin au Congo en Afrikaans, et là il se rappelle tout à coup que c'est précisément sur le fait que à l'université on avait imposé exclusivement l'afrikaans à tout autre idiome local que ont commencé les émeutes de Soweto en 1976. Et donc ils ont décidé de ne pas sortir l'album. Et dans le même temps, les éditions Penguin qui publiaient l'album en format poche, ont annoncé que dans la prochaine édition de leur ouvrage, ils allaient mettre un avertissement. Voilà. Mais la première partie, c'est la partie anglo-saxonne. Et puis on arrive en Belgique, et là, Il y a un étudiant en sciences politiques de 38 ans qui décide de porter plainte à la suite de ce qu'il a pu voir qui se passait en Angleterre, de porter plainte cette fois auprès du tribunal contre Tintin au Congo, qui est selon lui un album raciste et xénophobe. Et voilà, donc ça c'est le début de l'affaire Tintin au Congo.
Alors juste une chose, Didier, Hergé à l'époque était un jeune dessinateur, il était influencé, le XXe siècle est un journal d'opinion, je vais dire, assez marqué. Et
oui,
d'ailleurs il est un peu sous tutelle à l'époque. Hein. On lui a imposé le thème de Tintin au Congo belge, qui était le nom originel.
Oh, c'est pas un thème qu'on lui a imposé, c'est un thème qui s'imposait. Il est dans un journal catholique, conservateur, en 1930... Pourquoi on envoie Tintin chez les soviets? C'est son rédacteur en chef qui lui suggère l'idée. C'est parce que ce journal, qui est donc conservateur, a une ligne éditoriale anticommuniste. Donc il va demander d'envoyer Tintin au pays des soviets pour montrer à quel point ces communistes sont d'affreux bons hommes qui rendent malheureux le peuple qui domine. De la même façon, la Belgique étant une puissance coloniale, puisque depuis 1908, le roi Léopold II a réussi à imposer contre, d'ailleurs, l'avis constitutionnel, le Congo à la Belgique. Donc depuis 1908, la Belgique administre le Congo, et même à partir de 1918, le Rwanda-Urundi, qui appartenait aux Allemands et dont on a confié le mandat aux Belges. Et donc il faut des administrateurs pour ça, il faut des colons, il faut qu'on envoie des Belges au Congo. Et comment mieux susciter cette vocation en faisant en sorte que dans la bande dessinée, on idéalise... idéalisé d'un point de vue colonial, évidemment, ce Congo dans lequel on doit envoyer plein de blancs pour l'administrer. Et voilà quel est le but politique clair et net de Tintin au Congo en 1930.
Sachant que après Hergé l'a regretté quand il a fait une édition couleur, il y avait un peu l'équivalent de ce qui se faisait dans les colonies françaises, c'est-à-dire une leçon vos ancêtres les Gaulois qui était fait aux petits nègres, et là on leur dit votre patrie la Belgique. Et
oui,
ça a été remplacé dans l'édition couleur par une leçon de mathématiques qui était un peu plus neutre, forcément.
Oui, enfin, l'exemple que vous évoquez est un détail précis. Oui, en fait, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Tintin est devenu un phénomène de librairie, avant de même d'être un phénomène de société. Après la guerre, il s'agit plus de vendre 5 ou 6 000 albums, comme c'est le cas, et seulement en Belgique, comme c'est le cas dans les années 30, mais après la guerre, c'est par millions que les albums de Tintin commencent à se vendre. Et pas seulement en Belgique, également dans d'autres pays. Et donc Tintin au Congo ne ressortira pas pendant longtemps. Il va falloir attendre les années 70 avant qu'il y ait une nouvelle édition de Tintin au Congo. Et évidemment qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir la même lecture qu'on avait en 1930. Donc l'album sera redessiné. Et donc, plein de scènes vont être édulcorées, et notamment, effectivement, la scène assez ridicule où on voit Tintin expliquer aux petits Congolais que leur patrie est la Belgique. Effectivement, à partir des années 60, 62, puisque l'indépendance du Congo date de 62, la patrie des Congolais n'est plus la Belgique. Et donc, effectivement... Hergé remplace cette leçon de géographie par une leçon de mathématiques qui n'a plus la même signification et qui permet dans chaque pays d'avoir aussi le même sens. Donc il y a une volonté d'internationalisation. À ça s'ajoute, par exemple, il y a la fameuse séquence où Tintin fait sauter un rhinocéros à la dynamite, qui déplaît aux Scandinaves, et donc Hergé va la remplacer par une version beaucoup plus anodine.
Que cette histoire ressorte maintenant, parce que Hergé s'est quand même excusé. Il a fait plusieurs interviews en 73 où il disait que oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le mode de pensée du milieu où j'étais. Et c'était pas un mode de pensée auquel j'adhère maintenant.
Oui.
L'édition de 91 dont il est question en Angleterre, il y a un avertissement au début. Comment ça se fait que toutes ces histoires sont en train d'arriver sur un temps relativement court et extrêmement récent?
Alors,
est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une opportunité?
Il faut remettre les choses à leur place. Si Hergé en est à l'article du repentir, c'est parce que la société elle-même procédé à un processus de décolonisation, mais il est probable que si le colonialisme était encore en cours aujourd'hui, Hergé ne serait pas revenu sur ce type de choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que effectivement, il y a manipulation. Il est quand même étonnant que dans le monde anglo-saxon, l'affaire de Tintin au Congo arrive quasi une semaine après l'annonce par Spielberg que Spielberg va réaliser l'adaptation de Tintin au cinéma, et pas seul d'ailleurs, puisque Peter Jackson va faire un des épisodes. Donc c'est un événement considérable, parce que ça veut dire qu'Hollywood s'apprête à investir 600 millions de dollars sur le personnage de Tintin, que Tintin, qui n'était pas très présent dans le monde anglo-saxon, va du coup avoir une visibilité, une exposition qui va être surmultipliée. Et évidemment que les gens qui connaissent l'œuvre d'Hergé, notamment les Africains qui évidemment connaissent Tintin au Congo, se posent la question de la pertinence de cette mobilisation de Spielberg pour un personnage dont ils ont une image plutôt dégradée. Et effectivement, dans l'Amérique bien pensante qui aujourd'hui défend les minorités, enfin qui protège, disons, les minorités, et dans lesquelles, évidemment, la minorité noire a un rôle très très important, il n'est pas anodin qu'on vienne rappeler que Tintin est quand même a été un vecteur d'un racisme colonial que les Américains comprennent d'autant moins qu'eux-mêmes n'ont pas été des colonisateurs comme les Européens ont pu l'être. Et donc il y a là un discours sous-jacent qui est peut-être une manipulation d'une compagnie concurrente à celle de Spielberg. Mais qui correspond aussi à une interrogation, c'est-à-dire est-ce que on a raison de valoriser un personnage qui a un passé aussi douteux. Mais c'est vrai pour Tintin au Congo, c'est vrai aussi pour d'autres épisodes de Tintin, parce que à certains moments de son histoire, Tintin a eu des propos antisémites. Et donc, quand Spielberg a acheté
l'Étoile mystérieuse, par exemple,
en 1983 de Tintin, il y a des voix qui se sont levées dans la communauté juive en disant « Mais comment pouvez-vous faire l'adaptation d'un personnage qui a eu des propos antisémites ?» Et ça a été un des éléments qui a entravé le développement du projet de Spielberg dans ces années-là. C'est-à-dire qu'on peut dire que si Spielberg s'y est remis 20 ans après... aujourd'hui, je pense que Spielberg peut le faire parce que c'est l'auteur de La Liste de Schindler et quelqu'un qui a fait de ses preuves Mais donc la question est la même, c'est comment Spielberg peut à la fois promouvoir un personnage qui est raciste et antisémite. Donc on est autour de ces questions-là c'est pas nouveau. On a juste l'impression, vu le timing, que il y en a quelque chose de tout à fait piloté, quoi.
Tu disais tout à l'heure en antenne à propos donc de cet étudiant congolais qui portait plainte en Belgique. Tu disais que c'était aussi une remise en cause de l'État belge.
Oui, bien sûr. ce que je veux dire, c'est que je disais pas ça, c'est pas une remise en cause de l'État belge. Ce que je disais, c'est que c'est
mais pas, c'est un constat.
C'est pas un hasard non plus que donc ça c'est pour, j'ai parlé tout à l'heure du volet anglo-saxon. Ce que je veux dire, c'est que la plainte en Belgique n'est pas non plus l'effet du hasard. Il y a un article dans un bouquin qui s'appelle les mythes de la Belgique et de la Wallonie, et de la Flandre, qui est écrit par Joël Kotek, où Joël Kotek explique que Tintin est le mythe de remplacement de la Belgique. C'est-à-dire que Tintin est l'incarnation de la Belgique, puisque la Belgique aujourd'hui n'est plus un État unitaire, n'est plus une puissance coloniale, n'est plus une puissance économique. Il faut se rappeler quand même qu'en 1950, la Belgique est la quatrième puissance économique du monde, puisqu'elle possède le Congo à ce moment-là, qu'elle est la première productrice mondiale de non-ferreux, que des industries comme Solvay sont leaders dans leur marché sur tout ce qui est production de soude ou de phosphate. Et donc c'est une véritable puissance économique mondiale, un des premiers producteurs d'armes au monde. Et tout ça, ça va se déliter en gros à partir de 62, quand le premier ministre belge Gaston Eskens s'adresse au roi des Belges en disant « Sire, il n'y a plus de Belges ». Et il voulait dire par là qu'il y avait des Flamands, des Wallons, des Bruxellois, des Germanophones, mais qu'il n'y avait plus de Belges. Donc cet État n'existe plus, cet empire colonial n'existe plus, cette puissance financière n'existe plus, et la seule personnalité qui l'incarne encore, c'est Tintin, et c'est ça que ce brave étudiant congolais attaque. C'est quelque part une espèce d'âge d'or de la Belgique qui fait mal, quoi. Et donc c'est pas par hasard qu'il s'attaque à ce symbole-là.
Didier, merci beaucoup pour cet éclairage. Que tu sais que au sud de la Loire, on n'arrive pas forcément à comprendre.
Ouais.
mais en tout cas, c'est d'autant plus courageux de nous l'expliquer qu'en plus Actua BD est aussi le foyer des Amis d'Hergé, qui est un site justement de tintinophiles.
Et... Oui, mais je pense que on a rien à gagner à ne pas connaître l'histoire et à ne pas comprendre. Les tenants et les aboutissants des événements qui se passent autour de nous.
En tout cas, merci Didier pour être intervenu. Cette interview ne sera pas retranscrite sur Actua BD.
Oui.
Je te laisse deviner pourquoi.
Oui, non, on va pas mélanger les gens.
On va pas mélanger les gens, on est un petit peu... Et puis c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a aussi... on a mis en ligne récemment l'interview de Boulet Lune Rousse à propos...
Oui, très bonne interview.
Des blogs BD. Il y a Rudy Poumaret qui fait l'émission Blogueur BD. Je crois que Thomas va peut-être transcrire. Mm-hmm. En tout cas, merci Didier d'être avec nous. Thomas va te prendre en ligne pendant que moi, je vais continuer l'émission.
Ok.
A plus, bien à toi, à ciao. Alors je vous dis pas, c'est en train de continuer à débattre hors antenne. Et les braves gâteaux de Christine sont en train de s'empiffer en quatrième vitesse. Mais moi j'ai une chronique, une chronique BD à faire. On va commencer par de la manhwa de la bande dessinée chinoise éditée par Chiao Pan. Sombre futur donc est la nouvelle histoire complète. Traduite de San Chiao Yu. Je sais, je suis désolé, je massacre encore les noms chinois. Et bon, allez, pour ce résumé, je vais devoir prendre la grosse voix, c'est un peu obligé. Suite à la destruction de la civilisation telle que nous la connaissons, les hommes doivent lutter pour survivre. Chaque instant de lutte contre des insectes géants est un pas vers une goutte d'eau potable. Chaque pas foulant les immensités est un défi au loin posé par des barbares motorisés. Julian en a à découdre face à ces barbares. L'un d'eux, autoproclamé dernier artiste sur Terre, a transformé sa femme en sculpture à peau humaine. Depuis, ce shérif s'est juré d'exterminer ses assassins par le couteau, par le pistolet et par le grand cri prime désespéré. Enfin, je sais pas si c'est le cri qui tue, enfin bon, on verra. Suite à une périlleuse fuite vers le désert, il a été recueilli par la tribu des rats. Pour les remercier, il a promis donc à ses hommes de les amener à une terre promise. Un abri antinucléaire où les hommes et les femmes vivraient en paix. Seul hic, il faut traverser le désert. Je rappelle que ce désert est infesté d'insectes géants et de barbares motorisés. Je vous laisse imaginer que le voyage ne sera pas de tout repos. Des volontaires là? Non? Bon d'accord. L'auteur de l'envol décrit un post-apocalyptique brutal et désespéré. Rien de bien original, mais un bon exercice de style, c'est-à-dire sans aucune finesse. Rappelons qu'il y en a qui sont vautrés dedans, comme Olivier Ledroit avec sa porte écarlate, oui je sais ça remonte, ça fait 10 ans, c'était chez Soleil, ou encore Mel Gibson avec Apocalypto. Non, c'était pas ça, non, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, Sombre Futur de Chiao Pan, de Zhang Chiao Yu, c'est un bouquin en format A5 en noir et blanc, quand même sympa pour les gosses et puis par contre ça y va, ça schlark. Ça ressemble un peu d'ailleurs, il y a des légères allusions graphiques à Gun et à d'autres. Après, c'est à vous de découvrir. Docteur Koto, c'est une série qu'on vous a recommandée de Takatoshi Yamada, donc dans la collection Bikana chez Kana. C'est vrai que on n'en avait pas parlé depuis un bail, donc là je fais une chronique doublée pour les tomes 4 et 5 qui viennent d'arriver et qui sont déjà repartis. On l'a vu dans les premiers tomes, Goto n'est pas un vrai médecin, mais un chirurgien extrêmement doué. Qui a dû tirer un trait sur sa carrière prestigieuse suite à des jeux d'ambition et des rancœurs. En faisant mauvaise fortune bon cœur, en un an et demi, il a réussi à s'intégrer à la petite communauté de l'île de Koshiki, réussissant même des opérations difficiles dans ce petit dispensaire sous-équipé. Il dit sincèrement avoir découvert quel était son vrai rôle de médecin en étant attaché à cette ville isolée. Ça s'appelle le syndrome de Saxe. Serait-ce par envie d'être lavé de l'affront passé ou par réel humanisme qu'il accepte de revenir à Tokyo, ou tout simplement par défi. Voilà que son ancien directeur le rappelle pour qu'il opère un important homme politique. Ce que Goto ne sait pas, c'est qu'il est juste là pour servir les ambitions des autres. De retour sur sa petite île, ce sont les vieilles histoires qui ressortent quand des anciens habitants décident de revenir sur cette île, ouvrant d'anciennes blessures. Comme par hasard d'ailleurs, leur état de santé les met dans des situations périlleuses. Docteur Koto se lit agréablement parce qu'on n'est pas débordé par les détails techniques ou les termes incompréhensibles pour le commun des mortels.
Urgence.
Ouais, compagnie. Il y a aussi Say Hello to Blackjack ou Blackjack justement. Enfin bon, toutes ces séries de ce genre. Ou Grey's Anatomy. Ceux-ci servent l'histoire mais n'en sont pas l'unique axe. Ce qui importe, c'est la vie des patients, du médecin, de son infirmière. Bref, la vie tout court, avant même de la soigner. Docteur Koto, donc le tome 5 vient d'arriver dans la collection Big Kana. Shikana, c'est de Takatoshi Yamada et c'est quand même une série à découvrir. À noter qu'à la fin du 4 d'ailleurs, il y a une petite introduction sur justement l'œuvre de Yamada qui est faite. Après un roman de Jack Spitz, L'œil du purgatoire, je crois que du sport d'ailleurs peut-être connaît hein, Jack Spitz, Jean-Michel Ponzio au dessin, Dernier Exil, c'est une histoire complète en deux tomes. Le premier tome s'appelle Paul Donski, même si c'est pas marqué sur l'album, ça vient de sortir aux éditions Carabas Tournon. Jean Podolski est un peintre, un artiste parisien avec son atelier poussiéreux, ses toiles, ses modèles et sa rochontitude quotidienne. Ce qui paraît c'est standard chez les parisiens mais je suis pas sûr. Faut dire qu'il n'a pas la chance d'être dans le style de la mode actuelle et donc se fait refuser toile sur toile. On lui dit peinture claire, alors lui il éclaircit ses peintures mais non ça marche pas, il saura pourquoi. Alors il râle, il envoie chier tout le monde, même sa copine. Mais un jour il va croiser un original, un vieil homme qui se dit génie, prétentieux au discours farfelu. Mais ce Daguerloff a tapé dans l'œil de Paul Donski qui ne peut s'empêcher de le recontacter afin de prendre quelques croquis de lui. Dans tout ce que déblatère le vieil homme, et notamment la possibilité de voyager dans le temps, voire dans la causalité, Paul Donski était à mille lieues de se douter que cette rencontre allait lui faire changer sa manière de voir les choses. Une BD qui est inspirée du roman de Jack Spitz, L'œil du purgatoire, qui était un auteur de SF et de romans noirs des années 60. L'histoire met beaucoup de temps à s'installer et à nous mettre dans la peau des personnages. Et une fois que l'on est enfin à sa place, eh ben on ressort un très fort malaise. Et pour cause, c'est celui du personnage principal. Par contre, c'est le graphisme que certains auront beaucoup de mal à digérer. Jean-Michel Ponzio est un infographiste BDaste qui a déjà publié une BD en 3D et qui l'a cessé à une forme de rotoscopie. Je rappelle que la rotoscopie, c'est le recopiage de photos. C'est-à-dire qu'il travaille à partir de photos, qu'il a retouchées sur les contrastes, les couleurs, décalquées, superposées, enfin, vive Photoshop, quoi. Ça donne un rendu statique malgré ses efforts. Il n'a pas encore suffisamment, je dirais, la patte justement de ce côté-là par rapport à Frédéric Boilet. On a l'impression que ces acteurs se sont obligés de forcer la pose, donnant un aspect peu agréable de roman photo. Bref, c'est pas évident d'accrocher et à vrai dire, ouais, bon, je me suis un peu forcé quand même pour le lire.
Moi, ce que j'aime pas dans ce principe-là, et puis ça vaut aussi pour Boilet, parce que moi, Boilet, j'aime bien ses histoires, mais son trait, enfin, moi, pour moi, il tabasse pas. C'est juste le principe de prendre une photo et de souligner les cernes, on dirait des. Tu sais, les adaptations en BD d'après les cellulos des images capturées de dessins animés, et qu'il redessine par-dessus pour souligner les traits. Moi, je trouve ça assez horrible. Et bon, Boilet, c'est sa patte, mais. Enfin, là, c'est, ça vaut aussi.
Mais non,
aussi
justement,
pour
ça, Boilet, il accentue pas les traits. Est-ce que là justement ils sont accentués en plus donc de manière un peu artificielle un peu dommage. Bref, d'après le roman de Jack Spitz, Jean-Michel Ponzio, Dernier Exil, tome 1 sur 2, Paul Donski chez Carabas Tournant. Oui, non, il y en a une qui voulait dire quelque chose derrière.
Si, il y a l'assistance qui veut. Allez, passe-toi, Sabrina.
Allez Sabrina, allez.
Je voulais dire que par rapport au dessin de Boilet, c'est comment dire, c'est un trait qui est assez léger et c'est presque du croquis, donc par rapport au dessin.
Oui, c'est un dessin qui est beaucoup plus lourd quand même.
Et c'est trop Photoshop, quoi.
C'est très Photoshop. Je crois que là-dessus, on est un peu d'accord.
Merci Sabrina.
Midi 35, ben tant pis, j'emmerde la régie pub et puis voilà. On va se faire une petite interruption musicale. Vous écoutez le supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. Red Snappers, Sleepless.
Time to move on, can't freeze, cause I'm blessed with a gift from God I can't seize. As my thoughts manifest into words, I lay a speech upon the minds that are bonded. I'm trapped in a sleep, take a journey with me into my dream and see my nightmare. I can hear footsteps, but when I turn around, nobody's there. Spooky voices penetrating my ear with the smell of decay. In the cold night air, I feel the fear so cold. To the life that I chose, make me feel the dark confusion. Watch the stars in my soul. You could call me Osiris, call me the Prince of Peace. Watch me resurrect a phony MC. I said I'm free from a fantasy. You could dream on and I'm gone. Many women like ISIS with miraculous conceptions bring us up to a venture minded one who's coming on. In the mind of another, I've been living a long word. In this somebody gave me contained within my flow. Always deeper concentration, never out of control. Give me space, I'll innovate within this boom. As I come through, as I come through. Sat on the front out in the distance. His feet was like cold when he spoke. My mind glowed. Said don't take me to a physical body could never go. From day to night, from dusk to dawn, had my mind thinking things I never thought of before. From the floor, water warm, reaching up to the sky. See the knowledge that he left in my mind would never die. Then let it be my natural force. So watch me shine. Unclassified for an eye to be my guide. And there's somebody getting contained within my flow. Always deeper concentration, never out of control. Give me space. I don't know if you're in this room as I come through. As I come through. We'll be right back.
Dans ce numéro du supplément week-end, Thomas va nous parler du dernier film de Jean Nito.
Mais non, de Johnny To.
Un réalisateur congolais.
Hongkongais.
Qui, dans Exilé, raconte la difficile condition de réfugié après les guerres secouant le Katanga.
Mais non, c'est n'importe quoi, arrête de suite. Envoie plutôt le générique là. Là. Je préfère.
Putain, vous êtes sympa, mais moi j'ai aucune ligne de dialogue, moi. J'ai rien.
Mais non, pas du tout.
Mais non, pas du tout.
Non, là tu viens de te tromper de ligne.
Ah merde.
Ça devient n'importe quoi, ces sketchs. Alors, on va vous parler donc du nouveau film de Johnny To. Qui s'appelle Exilé, et c'est un casting qui comprend Simon Yam, Anthony Wong, Lam Suet, Francis Ng, qui s'écrit NG d'ailleurs. Bon, merci pour du sport pour le cours de diction. Alors, le pitch, donc ben, ça se passe à Macao en 98, un an avant la rétrocession à la Chine, où on voit quatre mercenaires qui débarquent de Hong Kong à la recherche de l'exilé Wu. Certains sont là pour le tuer, d'autres pour le protéger. Alors déjà, on peut voir un peu les certaines tensions entre les deux groupes. Et ensemble, ils vont tenter d'offrir à Wu la cagnotte d'un dernier coup, parce qu'ils sont tous d'anciens potes, d'anciens mercenaires qui travaillent ensemble. Mais ils devront également neutraliser l'impitoyable Fai, le commanditaire de l'assassinat de Wu. Fai qui est incarné par Simon Yam. En ordure finie, il se débrouille pas mal le bougre. Donc en fait, ce film, c'est le prolongement direct de l'excellent, mais je sais que t'es pas d'accord avec moi, du sport de The Mission, qui est sorti en 2001. Puisqu'Exilé reprend quasiment le casting, il y a juste un acteur qui a été remplacé. Et d'ailleurs, le casting avec les acteurs dans quasiment le même rôle en fait. Alors déjà, The Mission, moi, il m'avait frappé parce que c'était quand même un des rares films qui s'affranchissait de l'héritage de John Woo et de Tsui Hark, parce qu'au moins on voyait que Johnny To essayait de renouveler un peu la manière de montrer des gunfights. Donc c'était justement là où d'habitude c'était vraiment des gunfights à la solitaire, ou au pire il y avait deux gars qui étaient ensemble, un peu comme dans The Killer. Là, c'était un groupe de mercenaires parfaitement organisé, ils étaient cinq et il fallait qu'ils protègent un mec. C'était des gardes du corps, et donc chacun quadrillait une zone particulière, l'un il faisait qu'appuyer sur la détente, l'autre il devait faire barrage avec son corps sur le mec et tout, et c'était parfaitement huilé, la machinerie vraiment impec et vraiment impressionnante, et on avait donc sous nos yeux des gunfights complètement figés, mais visuellement très impressionnants, avec une gestion de l'espace assez sidérante. Et Exilé, ben, ça reprend un peu le même principe. Même si Johnny To, il va un peu plus dans la chorégraphie, on va dire, à la John Woo, un peu surréaliste. Mais le début du film, c'est quasiment le prolongement de The Mission, avec, Xavier peut en témoigner, il l'a vu aussi, avec des personnages qui sont complètement figés, qui se toisent pendant 10 minutes, avec une musique de guitare. Voilà. On y reviendra d'ailleurs à l'allusion. Et tant qu'on parle du début du film, donc ça se passe effectivement à Macao dans une rue très étroite. Et puis Xavier a souligné une remarque assez pertinente, et je te laisse l'opportunité de la faire partager.
Ouais, moi, ce que j'avais remarqué, c'est une chose, c'est qu'il a réussi, Johnny To, à créer véritablement ce qu'on appelle un huis clos dans un lieu qui est totalement ouvert, puisque on est en pleine rue, on est dans un quartier qui est avec des rues étroites, des maisons qui sont pas très hautes, mais c'est un lieu qui est ouvert puisqu'il y a un parc à côté. Et pourtant, et ben justement, il va servir de cette rue, de la géographie de Macao, qui est une qui ressemble pas mal à Lisbonne de ce côté-là, c'est-à-dire vous avez des pentes pour.
C'est un peu logique parce que c'est une ancienne colonie portugaise.
Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. évidemment, pour que Donc évidemment, le tueur à gage, pour s'enfuir plus vite, il s'est mis en bas de la pente. C'est vachement plus rapide pour galoper, pour sortir de sa maison. Hein. Il doit grimper. Et, mais du coup, ben, ça permet d'étager vraiment les arrivées et de faire ben, justement cette impression d'étouffement, de huis clos, parce qu'on est en bas d'une vallée.
Ce qui est intéressant chez Jonito aussi, c'est que c'est un mec qui s'est... d'habitude, les réalisateurs très nerveux comme Ringo Lam ou à Hong Kong, ils utilisaient le paysage urbain pour en faire vraiment des lieux d'enfermement également, mais ils se penchaient pas trop sur la géographie des lieux. C'est bon, c'est juste une ville avec des immeubles et tout. Il y a Bond Sawyer qui jouait aussi avec les lieux, comme dans Time and Tide avec les descentes en rappel, mais pas plus que ça en fait. Et Jonito, à mon sens, c'est quand même un des premiers à explorer tous les recoins, l'aspect géographique des lieux de baston pour en faire vraiment des personnages à part entière, comme dans Pity You, puisque ça se passe la nuit dans un Hong Kong complètement désert. Il utilise aussi les décors. Dans The Mission, la scène dantesque du centre commercial, il utilise les escalators qui bougent, les piliers, etc. Il les utilise vraiment avec un ton nouveau. Moi, j'avais jamais vu ça personnellement. Et pareil pour Exilé, avec cette rue étroite, l'utilisation du restaurant à un moment donné où il vise les lampes, etc. Et voilà. Alors que, par exemple, quelqu'un comme John Woo, bon, il utilisait des églises pour toute la portée symbolique.
C'est uniquement pour la symbolique, tandis que là, il se sert vraiment du lieu pour utiliser l'atmosphère du lieu.
Exactement. Et alors, je parlais des références. On a cité John Woo, on peut aussi citer Sam Peckinpah. On va pas trop expliquer pourquoi, mais ça peut spoiler le film. Mais pour toutes les valeurs chevaleresques, bon. Après, faut savoir que John Woo c'était vachement inspiré de Peckinpah aussi, donc bon, la frontière est assez mince. Mais bon, Peckinpah c'était quelqu'un qui aimait bien décrire un groupe de personnages et qui était jusqu'au boutiste et qui était complètement décalé par rapport à l'époque. On pense surtout à la Horde Sauvage où les mercenaires étaient un peu la fin du vieil Ouest. Et là, c'est pareil, c'est juste avant la rétrocession de Macao, donc on peut faire des parallélismes très très forts et tout. Et on peut aussi aller lorgner du côté de Sergio Leone, puisque pour toute la dimension un peu visuelle, genre les par-dessus, parce qu'ils ont tous avec les par-dessus, du sport qui est fan d'Anthony Wong. Quand tu vas voir le film, Anthony Wong a ses lunettes et le long par-dessus, tu vas voir, tu vas halluciner. Il y a aussi tous les gags présents dans les Sergio Leone, par exemple dans Pour quelques dollars de plus, quand il y a Clint Eastwood qui s'amuse à tirer sur l'arme de Lee Van Cleef pour l'éloigner un petit peu, là le gag est repris tel quel dans le film. Il y a quelques allusions aussi à l'homme à l'harmonica, mais c'est vraiment très flagrant. Et donc voilà, donc Exilé, bon, c'est une claque aussi. Je pense que même si on n'a pas aimé The Mission, ou même si on le vénère The Mission, je pense qu'on peut quand même prendre son kiff sur Exilé, parce que c'est quand même une ambition formelle assez impressionnante. Il revient aussi à ce qu'il faisait le cinéma de John Woo avec des chorégraphies, mais le mec qui est réfractaire au cinéma d'Hong Kong, il va se barrer du film parce qu'il dit qu'est-ce que c'est que ça. Et justement, c'est ça qui manque un peu avant dans le cinéma de Jonito, c'était un truc qui a du souffle. Jonito, il prenait plaisir avant à faire des gunfights décalés avec une musique complètement qui avait rien à voir des fois avec l'action, et là sur certains passages c'est vraiment du premier degré. Voilà, ça fait vachement plaisir. Et on parlait d'Anthony Wong, bon, mais voilà, c'est le plus grand acteur du monde, ce mec. La composition qu'il fait dans le film, il fait le mec soumis au commanditaire du meurtre, il fait le mec super ami avec ses potes et tout. Tu sens que il faut vraiment pas trop pour qu'il explose le mec, mais en plus il se contient parce que ça, en même temps c'est le leader, et puis c'est quand même le mec qui a le plus de maturité parmi le groupe. Alors tu te dis, ah putain, c'est quand même le mec, le personnage le plus intéressant du film. Et franchement, c'est ça des potes. Il y a Lam Suet qui a incarné le gros déjà dans The Mission et le héros de Pity You. Là il a une moustache et tout, il est un peu bon, il fait quand même encore le personnage comique. Francis Ng, c'est exactement la même chose que The Mission, mais sauf que maintenant il a des cheveux en pique, donc ça lui fait un côté chien fou. Toujours le physique de jeune premier alors qu'il a plus de 40 balais, le mec, tu es. Voilà, bon, le casting impressionnant. Et voilà, bon, si vous avez aimé Breaking News, The Mission, tous les films qu'il a fait, Pity You, les deux élections que j'ai pas vu, mais je pense que ça, il paraît que ça tabasse. Bon, voilà, Jonito toujours au sommet. Donc on parlait justement des gunfights. Alors, on va finir. Exilé, c'est un film qui est disponible, qui passe encore à Toulouse, mais à l'Utopia. Donc vous le verrez que là.
Bah au moins, il est visible en version originale.
C'est exactement, voilà. Voilà. Et donc on parlait de gunfight, et bien c'est peut-être l'occasion de faire un petit tome 5 spécial gunfight.
Le top 5.
Alors attends, on va faire la... on va faire l'intro avant. Bon, j'ai volontairement omis de parler des de certains gunfights hongkongais parce que sinon c'était pas du jeu. Donc on va faire un gunfight plus international.
D'accord. Donc on relance, attention. Attends, merci.
Numéro 5.
Alors, le gunfight le plus raté, donc c'est Pulp Fiction avec le mec qui serait capable de rater un éléphant dans un tunnel, enfin dans un tunnel. C'est donc le mec qui sort des shots et puis qui rate.
Putain, je vous promets.
Voilà, c'était un gunfight quasiment sens unique. voilà, il se fait dégommer après. C'était à la fois le plus rigolo et le plus raté.
Numéro 4.
Alors, le gunfight le plus silencieux, c'est un plus vieux film en noir et blanc avec Lino Ventura, les tontons flingueurs.
Ouais.
Enfin, ça fait pas poum, ça fait fou fou. J'ai l'impression qu'ils ont soufflé dans les bouteilles.
Numéro 3.
Alors, le gunfight le plus à l'envers, ça se passe au Club L dans le troisième épisode d'une célèbre franchise, Matrix Revolutions. Bon, désolé, bon, ça, c'est vrai que ça date un peu par rapport à Pulp Fiction et Tonton Flingueur, mais il pète quand même, et donc en plus par rapport à l'ambition que ça avait, c'est-à-dire qu'il y avait un gunfight où il y a Neo et Trinity qui entrent dans l'immeuble dans le premier, et ils font exactement l'effet miroir dans le 3, sauf que ça se passe à l'envers, parce que c'est des vampires qui marchent au plafond. Si vous l'avez pas vu, et si vous êtes assez des détracteurs de Matrix, revoyez cette séquence, ça envoie du boudin quand même.
Numéro 2.
Alors on en a parlé tout à l'heure, c'est le gunfight le plus poussiéreux et le plus sauvage et le plus absolu, c'est Lord Sauvage. Avec la mitrailleuse Gatling, je crois qu'il y en a une. Voilà. Bon, mais...
Numéro 1.
Si je vous dis plan séquence, le gunfight le moins découpé et qui se passe dans un hôpital.
Ah bah oui, c'est... Ah putain. Ah,
film de John Woo, voilà.
Hard Boiled,
oui, par excellence.
Bon, j'avais dit qu'il y aurait pas de gunfight hongkongais, mais ça on peut pas ne pas mentionner cela. Et sinon, il y avait des gunfights aussi assez savoureux, mais qui entraient pas dans le top 5 parce qu'effectivement ils étaient hors compétition. Donc il y avait le plus de morts, c'est le syndicat du crime 2.
Ouais. Ah non, Hot Shots 2. Hot Shots 2, il bat le record largement.
Le gunfight le plus en rappel, c'était Time and Tide, on en a parlé. Le gunfight, on a également parlé, le plus figé, c'était le centre commercial de The Mission. Et le plus en moto, c'était d'inspiration hongkongaise, c'est un réalisateur hongkongais, c'était Mission Impossible 2, avec Tom Cruise et cheveux longs en moto. Bon, moi, franchement, j'adhère aussi. Voilà.
C'était un top 5 gunfight sur les critères exclusivement personnels de Thomas. Je crois qu'on va changer un peu de style.
The Simpsons.
D'accord, alors dans ce cas-là, on a un jingle spécial.
The Youth of America on LSD.
L'America sous LSD, c'est bien.
Alors on va penser radicalement à autre chose. Donc c'est le film Les Simpsons, le film, d'après la série qu'on ne présente plus. Donc ça raconte quoi? Il y a Homer qui provoque une catastrophe écologique. Encore, et oui. Oh là là, mais c'est
tout.
Voilà, et donc suite à un concours de circonstances malheureux, il pollue le lac de Springfield et il provoque des mutations assez bizarres et étranges, ce qui provoque l'enfermement de la ville de Springfield sous un dôme géant, prôné par le président des États-Unis qui n'est autre qu'Arnold Schwarzenegger. Conseiller de façon totalement tangente par un conseiller qui est sans scrupule. Donc par la faute d'Homer, en gros, Springfield est dans la merde. Bon voilà. Et là, les habitants de Springfield veulent donc le lyncher. Et du coup, Homer est contraint de s'exiler en Alaska avec sa famille. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du film, c'est que en fait ceux qui aiment pas les Simpsons, vous avez pas aimé le film, et ceux qui adorent les Simpsons, vous allez adorer le film, puisque quand même ça c'est un cas assez rare, puisque concernant la vague des adaptations séries télé au cinéma, il y a toujours une dénaturation à un moment donné. On se souvient de South Park où on voyait le visage de Kenny, qu'est-ce que c'est que cette horreur. X-Files, bon, c'était un long épisode, mais il y avait plus de longueur qu'un bon épisode de la série. Bon, il y avait, voilà, à chaque fois qu'il y a une adaptation version, soit c'est trahi, comme Mission Impossible, c'était pas un mauvais film, mais bon, Jim Phelps.
Ça avait rien à voir.
Voilà, exactement.
Ou Alias, qui est pas trop mal, mais.
Voilà, toujours avec Tom Cruise d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, le film, il a toutes les qualités de la série et sans les défauts d'une adaptation, c'est-à-dire que c'est un long épisode, mais avec un rythme d'un épisode télé, c'est-à-dire que ça, toutes les deux minutes, il y a un truc qui change. Moi perso, avec Sabrina, bon, Sabrina, elle est un peu moins fan des Simpsons que moi, mais enfin, moi j'étais mort de rire pendant du début à la fin, et quasiment. Tu disais Sabrina ? Oui, elle a quand même rigolé, oui, parce que des fois tu peux pas faire autrement. Ouais. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que même si le film s'adresse à des gens qui ne connaissent pas la série, on ne se tape pas l'exposition des personnages. Je dis, ouais, Jesse, Homer, oh, mais mon fils, Bart, oui, je suis ton fils, ouais. C'est pour expliquer aux gens qui connaissent pas qui est qui. Bah là, tu l'as pas. Ou alors, c'est fait de manière tellement discrète que bah, t'as pas l'impression de d'être comme un cheveu sur la soupe. Et oui, mais je connais tout ça, merde. Et le film, il commence tambour battant, et puis ça donne vraiment l'impression de s'adresser à ceux qui connaissent déjà, et ça c'est pas mal. Alors parmi les grosses scènes choc du film, bon, évidemment, tout le monde se parle de Spider Cochon, puisque il a vu dans la bande annonce
Spider Cochon.
Il y a aussi, bon, il y a un truc qui a fait un gros foin aussi dans les interviews, puisque tout le monde rabat les oreilles de Matt Groening avec ça. Ben, on voit la stockette de Bart, mais dans une scène, mais à mourir de rire, mais c'est amené, mais vous avez même pas idée comment c'est amené, c'est vraiment une scène dantesque géniale. C'est, voilà. En plus, le principe du film, c'est qu'il y a rien qui est naturel. Il y a pas, par exemple, Homer Simpson qui va se découvrir une intelligence supérieure. Non, il est toujours aussi con. Il y a toujours le bar de mots. Il y a Lisa, Maggie, la Marge, la femme qui est toujours, ouais, je veux sauver notre mariage, qui en peut plus. Bart qui veut toujours s'affranchir de son père, qui va essayer de trouver en Ned Flanders, l'ultra religieux, un peu de substitution. Bon. Assez rigolo. Il y a plein de petits sketchs, mais au niveau mise en scène, c'est vraiment génial. Bon, le film, on peut pas trop en parler. Enfin, c'est assez dur de parler de ce film parce que c'est comme si résumer un épisode des Simpsons, il faut mieux le voir. Donc, les Simpsons, franchement, si vous aimez la série, vous serez absolument pas déçus par le film. Et alors, c'est pas Matt Groening qui est aux manettes. Alors, comme moi, j'ai un peu préparé l'émission à l'arrache, j'ai oublié d'imprimer le billet que j'avais déjà écrit, donc je sais pas qui est le réalisateur. Vous verrez, bon, enfin, c'est pas. Voilà, c'est par l'équipe des Simpsons, la série, et le même système d'animation, pas 3D, voilà, c'est nickel. Alors celui-là par contre il passe pas à l'Utopia.
Bon, quoique c'est quand même une charge violente envers les États-Unis. Hein.
Ah oui, faut voir la manière dont est conseillé Arnold Schwarzenegger. Alors il y a le conseiller qui arrive, il dit bon, vous avez 5 options. Attention, je ne vous forcerai pas la main, c'est votre décision. Je vais prendre la 4, non, plus bas. La 2, 1, pour au milieu, la 5, non, plus bas encore, la 3, voilà monsieur, c'est votre décision. C'est quoi cette musique de merde ?
Square Pusher, c'est excellent. Oh, tu connais pas, bah tant pis. Bah tiens, ça
mais virez-moi ce réalisateur.
Ça fait longtemps que je l'ai pas passé celui-là. Steve McGarrett here. Je t'amène juste à temps parce que dans 20 secondes il est 13h.
Ouais. Oh putain.
Eh ben je t'en prie.
Non, avec la question que Thomas vient de me poser, pourquoi Hawaii 5-0? Parce que c'est le titre original de la série en anglais, hein, c'est Hawaii Police d'État en français.
Et je sais pas.
D'accord. Bah je crois que c'était le numéro de téléphone d'appel.
5-0. Ouais, peut-être.
Je t'en prie.
Allez, encore un petit peu de cinéma vite fait. Avec le polar de l'été, bah de toute façon il n'y en a pas 36, hein. Bon à part le Exilé qui est également un polar, mais qui a une spécificité géographique, le polar classique américain de l'été, c'est quand même l'excellent Mise à prix, hein, qui maintenant n'est plus diffusé que dans une seule salle, et pour la VO, vous irez attendre que le DVD sorte, hein, c'est tout, c'est comme ça, ou alors peut-être qu'il sera rediffusé par Utopia, on sait jamais, hein, il le mérite, hein, je pense. Bah c'est quand même du gros budget, quoi, ce genre de film. C'est le troisième film, me semble-t-il, de Joe Carnahan, qui, moi, personnellement, m'avait bluffé avec son premier film, qui était d'ailleurs Grand Prix du Festival de Cognac, je sais plus il y a quelle année, le fameux Narc, hein, avec Jason Patrick et Ray Liotta, hein, une scène d'intro absolument haletante, enfin bon, une histoire bien trash, hein, de flics véreux, des petites apparitions comme ça, très sympathiques. De différents personnages secondaires de Starheim entre autres, enfin bon, très très bien, très très excellent. Ensuite il s'est commis dans un Mission Impossible, hein, c'est lui qui a fait le 3, hein, me semble-t-il.
Non, il devait faire le 3 mais il a été remplacé par J.J. Abrams parce qu'il y avait eu une mésentente artistique avec Tom Cruise.
Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et donc il décide de se rabattre alors sur ce Mise à prix, qui est un bon petit polar, ça restera pas un chef-d'œuvre, hein, immémorable dans le monde du cinéma, mais c'est un film qui est tout à fait regardable, ne serait-ce que parce que il y a l'utilisation d'un casting très 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 haut de gamme, hein, alors
Ben Affleck, souvenez-vous.
Ouais, Ben Affleck, bon, on laisse tomber, quoi, hein, c'est un second rôle qui disparaît dans le premier tiers du film, hein, dans une séquence très très rigolote, hein, il faut le dire, hein, avec Peter Berg également, hein, puisque bon, tous les deux sont des chasseurs de primes, hein, mais les personnages principaux sont quand même les agents du FBI qui sont chargés au départ, hein, c'est la première scène, de surveiller un mafieux dans sa villa, alors qui sont à l'intérieur d'une bagnole, hein, bien sûr, hein, c'est le thème classique, et il y a des micros partout dans la maison, donc ils peuvent suivre toutes les conversations, ils peuvent regarder les images de toutes les chambres, ils ont bien sûr des petites caméras, et il y a une des conversations qui les intéresse beaucoup, parce que bien elle va concerner un témoin capital, un témoin qui va peut-être mettre à bas la dernière grande famille de la mafia aux États-Unis. Alors le thème est archi rebattu, hein. On essaye encore de nous vendre des histoires de mafia. D'ailleurs, dans Ça c'est du sport, je vais encore vous en vendre une après, une vraie.
Ça n'existe pas la mafia. Tout le monde sait que ça n'existe pas la mafia. Edgar Hoover a prouvé qu'elle n'existait pas.
Exactement, exactement. Et donc, on va suivre cette histoire qui va nous emmener à Las Vegas, ou pas à Las Vegas, mais à Lake Tahoe, qui est également situé au Nevada, juste à côté de Las Vegas, hein, qui est également une ville où on peut pratiquer les jeux, hein, c'est une ville de jeux également, hein, qui a l'avantage d'être également une station balnéaire, ce que n'est pas Las Vegas. Donc, là-bas, au moins, à Lake Tahoe, tu peux faire de la voile, du canoë, tu peux te baigner, tu vois, t'as jusqu'à Las Vegas, faut avoir le jacuzzi à l'intérieur de l'hôtel. Bon, à part cela, on va donc suivre cette investigation policière, hein, qui va concerner, eh bien, le témoin principal, hein, qui est donc un témoin protégé par le FBI, et parce que il doit, par son témoignage capital, mettre à bas la dernière famille de la mafia. Et il va s'avérer donc qu'à la suite, de cette information qui est confidentiel au départ, tout le monde le sait quand même, hein, d'un côté comme de l'autre, du côté des bons comme du côté des méchants, enfin bon, la frontière est très très floue, on va dire, hein, quand on parle de bons et de méchants, parce qu'il y a également de sacrées pourritures, hein, du côté du FBI, et donc on va suivre les différents tueurs tueurs à gages qui vont essayer de se rendre à Lake Tahoe pour essayer de descendre ce fameux témoin capital qui s'appelle Buddy Israel, hein, qui au départ est un genre de magicien qui a réussi, qui est devenu une sorte de David Copperfield, tu vois quoi, c'est-à-dire qui triomphe dans des shows absolument terribles à Las Vegas, bien sûr, hein, dans les plus grands casinos, et qui un petit peu retourné sa veste, disons que pour lui sa vie est pratiquement finie, il est pratiquement au bout du rouleau, et c'est très très bien rendu d'ailleurs par l'interprétation qu'en donne Jeremy Piven, qui est l'acteur principal de ce film, qui joue le rôle de Bud Israel, qui est vraiment excellent, vraiment très très bon, très très bon, faut le dire, hein. Et donc on va suivre les différents tueurs à gages, qui sont un petit peu disséminés, qui viennent d'horizons divers, hein, mais qui sont chacun vraiment très très gratiné. Alors bon, du côté des gratinés, il y a le tueur qu'on pourrait dire un petit peu nordique, hein, c'est-à-dire le mec qui a fait toutes les guerres, genre l'IRA, le terrorisme, des petits trucs pas clairs, puis qui évidemment a traîné du côté de la Serbie quand il fallait dégommer du croate ou des musulmans.
Il est revenu de tout.
Vraiment la grosse ordure. Il y a le groupe de néo-nazis qui est absolument hilarant. Hein, ils sont trois dans une vieille bagnole pourrie et tout, avec des calandres de croix en croix celtique. Il y a la croix celtique sur la bagnole. Les mecs, ils écoutent du métal à fond les manettes. Ils sont fringués comme des mecs que tu vois des concerts de métal. Hein, pas de problème. Hein, Iroquois. Enfin bon, la totale quoi, mais enfin bon, ils sont quand même très très dangereux. Il y a le couple de Nana qu'on sait pas si elles sont vraiment lesbiennes, mais on pourrait le croire quand même, hein. Il y a pas vraiment de sexe dans ce film, hein. Bon, c'est déjà un avantage, hein. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt, ça n'aurait aucun intérêt. S'il y a un peu de sexe, parce que bon, il faut bien que Buddy Israel se détende, hein, dans, puisqu'il est coincé tout en haut de dans la dernière suite qui est tout en haut de l'hôtel, hein, donc. Tu t'as un défilé de putes, hein, c'est-à-dire hop, quand il a consommé 4-5 putes et tout, allez, la charté, vous dégagez, et puis hop, t'as une autre charté de putes qui se ramène. Mais bon, c'est assez rigolo d'ailleurs, quoi. Et il y a également le tueur solitaire mexicain, interprété par Nestor Carbonell, qui n'est autre que I am Batmanuel dans la série de Tick, qui est vraiment bon, très très bon aussi, bien foutu, bien filmé. Et il y a également donc dans ce duo de lesbiennes, eh bien l'une des deux est interprétée par Alicia Keys, hein, qui vraiment là trouve un superbe rôle et qui s'avère être une bonne actrice. Et c'est pas évident quand même du tout, hein, surtout qu'elle est encore assez jeune, qu'elle n'a pas beaucoup de d'expérience, hein, au niveau acteur. Je crois qu'elle avait déjà tourné dans un autre film ou deux autres films, mais là vraiment elle fait très très fort, hein. Il faut en tueuse vraiment rentre dedans quoi, avec sa copine, enfin bon, c'est vraiment terrible. Alors il y a tout un casting impeccable, Ray Liotta en flic, il y a un espèce de Andy Garcia qui est méconnaissable, pratiquement méconnaissable, hein. T'as parlé de Ben Affleck avant avec Peter Berg, Nestor Carbonell, il y a Alicia Keys, donc Nestor Carbonell, Jeremy Piven et encore beaucoup d'autres, hein. C'est un casting haut de gamme quand même, ça vaut le coup. La plupart sont des seconds couteaux qu'on connaît un petit peu mal. Il y a également le rappeur Common qui a une bonne partie, hein, qui joue le rôle d'un homme de main de Buddy Israel. Enfin bref, c'est un petit polar bien nerveux avec un gunfight absolument magnifique dans un couloir qui vaut vraiment le coup, hein, que t'aurais pu placer dans le top 5 sans problème, hein, parce que c'est bien sanglant, ça dépote à fond les manettes et ça dépote même avec du très 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 gros calibre. Donc ça vaut vraiment le coup pour ça, et ça vaut également surtout parce que ben ça tombe pas comme un rond de flanc à la fin de film. Il y a vraiment une fin qui, moi, je trouve absolument excellente, de toute façon, hein, parce que bon, bah, il n'y a pas de happy end, ça, tu dois t'en douter. Il n'y a pas de problème, hein, ça se finit très, très mal. Et c'est vraiment le film, le polar de l'été à regarder. Sinon, côté film, dans un tout autre registre, il y a également Ratatouille. Ah ben, pareil que toi, un polar et un dessin animé, hein, pareil, quoi, de toute façon, quoi. Alors Ratatouille, ben que dire, j'en parlerai très brièvement de toute façon, c'est vraiment du Disney, il n'y a pas de problème, hein, l'histoire est un petit peu plan-plan. Alors la grosse critique que j'ai à faire à propos de ce film, c'est que bon, ben, c'est un film Disney, donc réalisé par Brad Bird quand même, donc là ça vaut le coup. L'image, la technique, le rendu est absolument magnifique, c'est somptueux, hein, je sais pas si on va arriver à faire mieux. Hein,
si là, c'est toujours arrive... possible. Mais
oui,
là,
oui, mais là, là, c'est déjà du très, très haut niveau, hein, quand même. Là, vraiment, on sent les moyens qui sont derrière. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'histoire est Disneyienne à fond les manettes, Happy End à fond les manettes. Et le seul défaut, et c'est ma grosse critique, hein, c'est que bon, c'est un film qui est destiné à être vu par des gamins, donc hein, par des enfants. Mais ça parle énormément. Il y a énormément de dialogues. Et là, ben, je sais pas si des gamins d'un certain âge, à partir de 5-6 ans, on va dire, sont capables de suivre l'ensemble des dialogues, quoi. Bon, tu me diras, avec le mouvement, avec le rythme qu'il y a dans le film, on peut s'en passer, quoi, on va dire, on peut regarder le film à différents degrés, sans problème, mais au niveau des dialogues, pour la compréhension totale de l'histoire, je veux dire, pour les gamins, ça me paraît un petit peu difficile, hein. Donc, pour les enfants, ce serait plutôt réservé à des gosses à partir de l'âge de 8 ans, 10 ans, quoi, pour la compréhension totale de l'ensemble de l'intrigue. Sinon, bon, bah, c'est absolument magnifique, ça cesse de regarder, et on est surpris de voir que le film dure très longtemps, il fait quand même 1h50, hein, c'est très long pour un dessin animé, hein, quand on sait que les gosses... pour les tenir assis pendant plus d'un certain temps, c'est pas évident. Et là, ça se passe vraiment très très bien. De toute façon, bon, c'est un film à regarder. Ce qui est dommage, comme d'habitude, mais là, bon, bah, on peut pas en demander trop. C'est que le film est en version française, alors que dans la version originale, on a quand même du casting haut de gamme également, avec Brian Dennehy, avec James Remar, Anne Hetsch. Enfin bon, laisse tomber. Bon, notre côté avec Pierre-Martin Laval. Bon, bon, on a ce qu'on hérite, quoi. Peut-être, quoi. C'est
et
tout. Quoi.
Ouais, juste une remarque par rapport au public. C'est vrai que de façon Pixar, c'était déjà distingué par des films d'animation qui étaient au point de vue long métrage et court métrage aussi, surtout. Qui n'était pas uniquement destiné aux gamins, puisque bon, Les Indestructibles, c'était un propos quand même clairement destiné aux adultes, puisque ça racontait l'histoire d'un père qui était un peu ventripotent et tout. Cars, c'était pour des personnes hyperactives qu'il fallait qu'ils se calment un petit peu et puis prendre le temps d'observer un peu les choses. Bon, Nemo, même si c'était un peu plus le thème était un peu plus enfantin, il y avait quand même des préoccupations adultes. Bon, il y avait que Mille et une Pattes à la limite qui était plus jeunesse, mais Pixar, c'est quand même c'est par rapport à du Disney effectivement que c'est très très bavard. Tu disais Sabrina ?
Non mais Sabrina, si tu veux parler, il faut que tu t'approches du micro, hein, quand oui. Même. Non, rouge. L'autre, il est dispo.
Je disais que même les Walt Disney, pour ma part, ne sont pas absolument pas pour les enfants. Le propos des Walt Disney, même si...
Tu parles de la mère de Bambi ou bien de celle de Dumbo ?
Je vais te raconter la fin de la mère de Bambi, tu vas voir.
Ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est qu'il y a Disney en ce moment les plus récents Disney, ils sont aperçus que c'était bien de explorer le créneau de l'humour un peu second degré et vraiment irrévérencieux avec des films comme Cusco ou Lilo
oui,
et Stitch.
Voilà, ouais.
Qui là, c'est plutôt des à partir des enfants un peu plus âgés que la moyenne et plutôt pour des ados.
Parce que par exemple, Cendrillon, bon encore ça c'est les vieux contes. C'est parti des contes populaires. La morale est cruelle. Donc moi à la base, Walt Disney, effectivement c'est gentil, mais c'est gentil.
C'est l'expérience d'une jeune fille qui travaille avec des gamins.
Oui.
Enfin bref, c'est quand même le film à regarder, hein. C'est de toute façon, il y a que celui-là, hein, comme dessin animé de l'été. C'est assez bizarre d'ailleurs, hein. On se rappelle que bon, l'année dernière, il y avait quand même eu le choix entre plusieurs dessins animés, quoi, pendant l'été. Là, ben, ok, on est servi par un seul dessin animé.
Ça pourrait être pire. Il y a aucune chanson de l'été cette année.
Ah bah oui, mais ça. Ça c'est peut-être pas mal, hein, de toute façon, quoi. Donc
c'était pas arrivé quand même depuis la Lambada.
Donc si vous avez envie de bien vous détendre, il y a beaucoup d'action quand même, hein, ça bouge, hein. Il y a quelques scènes qui sont super hilarantes quand même, il y a quelques scènes qui sont bien trash quand même, ouais. Qui sont pas vraiment pour les gamins, je trouve. Mais bon, faut faire avec, ça passe assez vite, de toute façon, heureusement, quoi. Parce que bon, c'est un peu trash, quoi, on va dire, pour les gamins, voilà.
Et quand tu disais que c'était le seul film d'animation de l'été, il va de soi que les Simpsons est absolument hors concours, hein.
Bah les Simpsons, c'est pas tellement pour les gamins.
Oui, voilà, c'est ça, c'est bon ça, c'est hors concours, on en parle même pas, quoi.
Oui, c'est pas pour les gamins, attention. Allez, encore dans les images à propos, mais avant de parler de télé, avec le nouveau Comic Box qui est sorti.
Encore ?
Ah ben non, mais c'est vachement bien parce que c'est un bimestriel, c'est-à-dire que
une
sort
fois
tous les deux mois. Mais comme il y avait le hors-série là, le mois dernier, bah t'as l'impression qu'il y en a un par mois.
Voilà.
C'est cool. Et pendant l'été, là, je trouve ça vraiment impeccable. Généralement, l'été, t'as rien. Ils se mettent tous à la période d'été. Un
spécial juillet-août à chaque fois.
Ouais, spécial juillet-août et tout.
Désolé, tu as le Picsou Magazine super géant.
Ouais, bon. et là, en plus, pour un numéro d'été, là, ben, on est vraiment gâté. Là, vraiment, j'ai dévoré ce comic box. D'habitude, je mets un peu plus de temps à le lire. Et là, je l'ai dévoré vraiment du début jusqu'à la fin. Alors, avec déjà rien que pour te mettre l'eau à la bouche, il y a deux BD, il y a deux BD inédites, donc exclusives pour Comic Box. Le mois dernier, comme c'était le spécial Marvel, donc évidemment c'était des trucs Marvel. Là, c'est de DC. Et alors, attention, parce qu'il y a une BD de Flash, scénarisée par Jeff Loeb. Jeff Loeb qui est quand même l'un des producteurs exécutifs en ce moment de Heroes ouais. À la télé hein, mais qui est un ancien de chez Marvel, un ancien du monde des comics depuis très 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 longtemps et dessiné par Ed McGuinness et il y a également un court extrait du New Gods de Walt Simonson et de Jim Lee et Frank Miller, dessiné par Frank Miller. Donc,
attends, tu veux dire qu'ils reprennent le
dessiné par Frank Miller, ça?
Yes.
Oh punaise.
Ah oui, d'accord, ouais. Yes. Effectivement, c'est Frank Miller, ouais.
Voilà, c'est Frank Miller. Sinon, au niveau des articles, alors, ça commence par des trucs très intéressants sur les Spider-Man à venir dans le monde des comics. Et là, bah, ça s'avère vraiment, ça te met l'eau à la bouche, hein, t'as vraiment envie d'y aller. Et on sait que à partir de l'année prochaine, eh bien, John Romita Jr. va s'y remettre. Et là, tout de suite, il y a l'interview qui suit justement de John Romita Jr. Il y a également l'interview de Robert Downey Jr. pour bien l'interprétation de Iron Man.
Oh, putain, les photos sur Internet, comment elles tuent ?
Alors, l'interview est pas terrible. Hein. Robert Downey nous avait habitué à des petits trucs un petit peu plus pétants. Là, c'est vraiment l'interview du mec qui joue son rôle et puis voilà quoi, c'est sans plus. Également concernant Iron Man, une série animée va bientôt sortir, une série animée qui est faite par un studio français, le studio qui nous a déjà fait Skyland. Et là, on peut se dire, ah ouais, d'accord, ça peut le faire, tout à fait. Et elle est de page sur le Comic-Con de cette année, donc qui s'est déroulé à la fin du mois de juillet, quoi. Donc c'est du tout frais, hein, vraiment du tout frais. Et ensuite les rubriques habituelles, avec il y a également l'interview de David Finch, l'interview de Brian Bolland, hein, ça te parle ça, quoi?
Non, pas du tout.
Brian Bolland qui a fait Killing Joke. Avec Alan Moore.
Ah, d'accord,
entre autres.
Okay.
Et j'en passe des meilleurs. Bref, c'est un numéro, je te dis, moi je l'ai dévoré carrément, quoi. Et il y a également, alors là, je pense qu'au niveau du portfolio, tu seras pas déçu, parce que Joe Engelhart, c'est pas n'importe quoi. Hein, ça vaut le coup quand même. Voilà, bon, bah ok, je vais pas le revoir, désolé. Donc c'est tout ça, c'est dans le nouveau numéro de Comic Box. Qui explore également l'univers Ultimate X-Men et Ultimate dans le chez Marvel. Voilà, tout ça dans Comic Box. Sinon, deux livres vite fait. Alors, mais surtout pour vous parler d'un monsieur qui s'appelle Dennis Lehane et dont le dernier bouquin qui s'appelle Coronado vient de sortir aux éditions Rivage Noir, hein, en petit format, format poche, pas trop cher quand même. Et de Dennis Lehane, on connaissait bien entendu sa Pentalogie, parce que c'est il y en a sorti 5 hein, carrément, hein, consacré aux aventures des détectives Pat McKenzie et Angela Gennaro, avec un dernier vers pour Avant la guerre, Ténèbres, promenez-moi la main, Sacré, Gone Baby Gone, et le cinquième donc qui s'appelle Prière pour la pluie. C'est du bon, c'est de l'excellent. C'est pas le meilleur hein, dans la série de ce couple de détectives. Alors Pat McKenzie, ça se passe à Boston, hein, d'où est également originaire Dennis Lehane, mais ça se laisse super bien lire quand même. Hein, c'est quand même du haut de gamme en polar. Dennis Lehane, c'est le mec qui nous a écrit Mystic River, hein, donc du très bon polar quoi, quand même, et qui a également commis un autre livre qui s'appelle Shutter Island, qui n'a rien à voir avec son histoire de détective privé, hein, mais qui est une espèce de mise en abîme, on va dire, hein, bon, bah, pour pas trop dévoiler, parce que bon, bah, un mec qui se rend dans une île qui pourrait s'apparenter à Rikers Island, une île prison, quoi, où il doit rencontrer des détenus. pour des histoires de témoignages. Et ça va partir en, ça part en couille, mais bon, c'est absolument magnifique, c'est très bien foutu, hein, de toute façon, quoi, hein, c'est très bien écrit. Et donc le dernier Days Lehan qui vient de sortir, hein, que vous pouvez voir dans la librairie, hein, il est foutu en avant et en temps fou à l'appel, à la toque, parce que bon, bah, c'est quand même Days Lehan, c'est Coronado. Et oh, surprise, quand tu ouvres le livre, ce n'est pas une histoire complète, non. Eh bien, ce sont des nouvelles assez longues, hein, quand même, hein, on va dire d'une quarantaine de pages. Alors, il y a en fait 5 nouvelles à court de chien, en observation, week-end à corpus, tir croisé et avant Gwen, et la 6e qui s'appelle Coronado, donc n'est pas une nouvelle, en fait, c'est une pièce de théâtre qui fait 100 pages et qui est tirée de cette nouvelle qui s'appelle Avant Gwen, qui fait une trentaine de pages. Et là, ben, on peut dire que... Alors, il y a une petite explication, quoi, entre les deux, hein, qui permet de resituer un petit peu la façon dont Denis Lehan s'est lancé dans l'écriture de cette pièce de théâtre, parce que lui, c'est quand même un auteur de polar, on va dire, au départ. Et bon, ben, on se rend compte que c'est absolument somptueux, c'est génial, c'est magnifique, hein. Bon, il faut aimer un petit peu lire les pièces de théâtre, hein, c'est-à-dire les dialogues, les comme différents. Ça, quoi. Mais c'est vraiment excellent, c'est du Denis Lehan, hein, de toute façon, même au niveau de la pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui a d'ailleurs été jouée off-Broadway en 2005 et en 2006, hein, ça il l'explique un petit peu dans le bouquin, mais bon, c'est vraiment un excellent bouquin pour l'été, de toute façon, hein, le format court des nouvelles permet justement de laisser tomber un petit peu, tu le fous de côté, puis ensuite tu peux le reprendre sans problème. Les nouvelles n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre, hein. Il y en a une qui est vraiment très très bonne, hein, l'histoire d'un mec qui commence à se sentir suivi et tout, quoi. Et donc il remarque qu'il y a des mecs en par-dessus, il sait pas si c'est des mecs du FBI et tout, donc il décide de se planquer dans un hôpital, et bon, bah, il va rester 2 mois dans ce tosto à zoner dans les différents endroits, tu vois, quoi, pour échapper, quoi, aux gens qui essayent de le poursuivre. Quand il est au bout d'un certain temps, il va rencontrer un mec qui va dire ok, toi aussi t'es suivi et tout, quoi, mais laisse tomber, ça y est, ils sont partis. Et puis le type il dit bon, bah, ok, je peux partir, et c'est la fin de la nouvelle, tu vois. Enfin bon, des trucs un petit peu comme ça, un petit peu improbable, quoi, mais vraiment très très bien écrit. Donc c'est le dernier bouquin de Denis Lehan qui s'appelle Coronado, paru aux éditions Rivage Noir comme d'habitude. Sinon, à présent, la télé, vite fait, quand même, avec au niveau des séries, bon, je vous ai fait un petit spécial Law and Order, tout ce qui passe pendant la semaine. Alors c'est ce soir sur TF6 à partir de 20h45, des épisodes de la saison 1, il y en a 3, hein, comme tous les samedis pratiquement, avec mort dans l'exercice de ses fonctions, femme en péril, un -10 avec l'apparition de Samuel L. Jackson, qui à l'époque il n'était pas connu, il avait pas fait encore son duo dans Pulp Fiction avec l'autre scientologue là, donc il n'était pas connu vraiment, bon, il avait déjà la quarantaine passée, hein, mais ça fait plaisir de le voir quand même dans un épisode de Law and Order. Également l'épisode Tombe les filles. Sinon dans les deux épisodes de Law and Order spécial unit de ce soir sur TF1 à 22h25, après les deux épisodes de Heroes. Et là, je m'étais planté samedi dernier, je vous avais dit ouais, c'est là qu'il arrive, Michael McDowell. Non, c'est ce soir qu'il arrive, Michael McDowell, dans le deuxième épisode.
Ouais, je me disais aussi, hein. On va pas me pousser.
Non, mais c'est ce soir qu'il arrive, hein, de toute façon, quoi. Et
donc je rappelle que c'est quand même le plus mauvais chef de la mafia que j'ai jamais vu, parce que il se fait piquer 2 millions, puis 2 millions, puis 200 000, puis il prête 1 million, puis 2 millions, puis...
Non mais attends, t'as pas vu la fin, toi.
Non. Alors dans les deux épisodes, dans les deux épisodes de ce soir de Law and Order Special Unit, qui ne sont pas des inédits, le premier est pas mal, hein, c'est Le Fugitif. Un -10 avec la participation de Jacqueline Bisset. Mais le deuxième, il dépote, comme le deuxième de samedi dernier, hein, celui avec Gary Cole, quoi, qui dépote à fond les manettes, vraiment une histoire bien trash. C'est Belle et Méchante, hein, un -12, donc, qui vaut vraiment le coup d'être regardé et re-regardé. Il y a encore du Law and Order dans la semaine à venir. Sur TF6, lundi, à 22h30, 2 épisodes de la saison 1, Inégalité raciale et Pour la vie. Et bien entendu, sur 13e rue, vendredi prochain, avec 2 épisodes de la saison 11. Alors là, dans la saison 1, c'est soit George Junza avec Chris Knott, soit Paul Sorvino qui le remplace au bout d'un moment, George Junza, parce qu'il avait des problèmes de santé. Et dans la saison 11, là, c'est Jerry Orbach, bien sûr, hein, qui apparaît, avec Jesse L. Martin. Le Black. 2 épisodes donc vendredi prochain sur 13e rue, Fausse Note et Vengeance Programmée. Sinon, demain soir sur France 2, les trois derniers épisodes de la 12e ou 13e saison de ER, Urgence, avec Je ne le veux pas. Le deuxième épisode, c'est Changement de cap, avec la participation de Stanley Tucci. Ouais! Et le dernier épisode, donc, La Lune de Miel est terminée, qui est le dernier épisode de la saison 13 d'Urgence. Et donc, après, dimanche prochain, bah, vous aurez plus d'urgence. Voilà. C'est bien fait pour vous. C'est demain soir à 20h50 sur France 2. Sinon, ça te fait longtemps.
Heureusement qu'il a pris le docteur Coteau, hein, pour ce.
Bah ouais. sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Master of Horrors. Et pourtant, il y a une deuxième saison, hein, qui a été tournée. Et Canal Plus, vous les diffusez. Alors là, bon, j'ai dû louper le passage sur Canal Plus normal, mais là, c'est sur Canal Plus Sport. Ce soir, à 22h25, après les matchs. Il y a deux épisodes de Master of Horrors 2, c'est-à-dire qui date de 2006, de l'année dernière. Le premier, c'est Family de John Landis avec George Wendt et John B. Scott. Et le deuxième, c'est J'aurai leur peau de Dario Argento avec Meatloaf et John Saxon.
Ah, pardon.
Et tous les deux sont moins 16. Hein.
Alors moi, j'avais vu sur DVD-rama, ils se sont dit... Enfin, moi, j'ai pas vu, mais le Carpenter et le Argento, et je crois qu'il y en a un autre aussi, ils sont tous pourraves. Et celui de Toby Hooper, il est encore pire que celui de la première saison, qui était vraiment merdique. Ils se sont dit, la deuxième saison, il y a certains... voilà, c'est un peu feignant, quoi.
Mais il y a John Saxon.
Oui, mais oui.
Et Meatloaf.
Encore une série dont je vous avais parlé avant qu'elle commence à être diffusée sur Syfy. Ce sera lundi prochain 20h50. C'est Century City, l'histoire d'un cabinet d'avocats, mais dans un futur assez lointain. Et donc la donne a changé au niveau de la loi, hein, parce qu'il n'y a plus que des humains, uniquement des humains, mais également les aliens, les mutants. Et donc il faut composer avec ça. Et donc il faut défendre ces gens-là de façon un petit peu plus différente. Mais c'est surtout l'occasion.
Il y a aussi des quotas de minorités dans les séries télé, alors je suppose.
Ouais. C'est surtout l'occasion de voir Red Richards, Johan Gruffudd dans ce cabinet Century City, avec Hector Elizondo et Viola Davis, entre autres. Sinon, mardi prochain, Arte, comme tous les mardis, c'est Summer of Love. Et alors là, Summer of Love, ils sont pas fait chier, de toute façon. Ils se sont dit, ok, de toute façon, là, on va le faire. C'est Woodstock, mardi prochain, le film documentaire, 3h35, là c'est la version longue, hein, celle qui est sortie au cinéma, hein, donc hein, qui a d'ailleurs eu un Oscar, il faut le préciser, hein. Le film de Michael Wadley, donc où on voit pratiquement l'ensemble de ce qui s'est passé, l'ensemble de tout le gratin, hein, qui s'est produit à Woodstock, hein, Jimi Hendrix, Sous la pluie, qui c'est que t'as encore, alors du côté des rigolos, t'as Shanana, un groupe de rock'n'roll qui est complètement décalé par rapport à tous les autres, Babos et tout, cheveux longs, et tu vois arriver des mecs en truc en costard blanc genre Elvis, tu vois quoi, tous, qui nous font At the Hop et tout quoi, c'est vraiment très très bien. 10 Years After, Les Who, absolument magnifique, qui c'est qu'il y a encore Arlo Guthrie, enfin moi j'en passe à des meilleurs, Richie Evans. Ouais, toute la bande. Et c'est suivi à 20h20, donc, puisque le film fait 3h30, de Roots 67, qui est en fait une émission dans laquelle des artistes contemporains, alors il y a même M, qui reprennent des morceaux de l'époque, des morceaux de des Doors, de Jefferson Airplane, enfin de Jimi Hendrix, Bob Dylan et tout ça. Et donc à regarder quand même, mais c'est quand même relativement tard. Sinon mardi prochain, c'est bien entendu Jardin Secret sur Fox Life, les trois derniers épisodes de la saison 2, l'épisode 6, 7 et 8, la crise de la quarantaine, ne plus souffrir seul et un bébé pour Noël. Et
ça, si on pouvait éviter le résumé.
Ouais, non, mais parce que si la saison 2, elle a démarré avec 3 épisodes un petit peu mou du genou, on va dire un petit peu ledge. Mais par contre, l'épisode 4 et l'épisode 5, là, ça redonne quand même un petit peu des avec l'apparition dans l'épisode 5. Eh bien, d'un deuxième interprète de l'autre série soap hollandaise diffusée sur Canal Jimmy, Secret d'Héritage, le fameux Gert. Eh ouais. Donc, Jardin Secret, mardi prochain sur Fox Life. Et là, pour terminer vite fait, une sélection de films ou de téléfilms durant tout le long de la semaine, un peu décalé on va dire, hein, même des fois beaucoup décalé, avec ce soir à 22h15 North Star, la légende de Ken le survivant.
Ouais, Michael McDowell.
Non, pas du tout, hein, c'est la version avec Gary Daniels, le film de Tony Randall.
Mais je crois que le méchant c'est Michael McDowell.
Ah peut-être. Donc le film de 94 ce soir.
L'homme aux 7 cicatrices.
Ce soir sur AB1, il est moins 12.
Au cinéma.
Hein. Ah ouais, ouais, il, ouais, il est moins 12. Attention, c'est bien heavy. Bah, Gary Daniels, ouais, allez, Gary.
Attends,
Daniels.
Toi, tu regardais pas Action Video, le magazine des vidéoclubs, toi?
Ben non.
Bah, comment dire,
baston.
Voilà.
Alors, moins baston, mais plus de plouf, dimanche soir à 20h45 avec SOS Titanic, excellent téléfilm de William L. de 79, avec David Johnson, qui est le fugitif, David Warner également, et Ian Holm, c'est sur TF6, dimanche, demain à 20h45.
Ce que j'adore, c'est l'effet loupé de Du Sport, qui est le...
Non. Le fugitif. Ouais, mais c'est normal, vous y connaissez rien, quoi.
Merci.
22h30 également demain soir, L'amour est ailleurs sur Fox Life, après la rediffusion de Jardin Secret, un film de Lorenz Serra Ferrara de 1997 avec Victoria Principal et Adrian Pasdar.
Ouais.
Ça bosse en pesant cacahuètes pour cette distribution quand même. Lundi à 20h45 sur 13ème rue, ils nous passent pas que des merdes le lundi soir, hein, les espèces de films ou téléfilms, hein, qui nous diffusent. Ils nous ont passé Bronze Requiem il y a pas longtemps, hein, l'adaptation téléfilmée, hein, du premier roman de James Ellroy avec Michael Rooker dans le rôle titre. Là c'est excellent, vraiment très très bon, hein. Il y a Brad Dourif, enfin vraiment toute une galerie de second couteau magnifique. Là c'est Anthrax, un film canadien, donc ça vaut peut-être sans pesant de cacahuètes, un film de Rich Stevenson avec Cameron Dado, rappelez-vous Models Inc, oh là là, Ed Begley Jr, Joanna Cassidy et David Keys. C'est sur 13ème rue lundi prochain, Anthrax à 20h45. Sinon lundi prochain, il y a également sur la chaîne Action une soirée Ninja.
Ouais.
Avec à 20h40 Ninja Vengeance de Karl Armstrong avec Craig Boyett, et à 22h05 l'implacable Ninja de Menahem Golan de 81 avec Franco Nero, Shoko Juji et Alex Courtney.
Rappelle-moi le nom du réalisateur déjà.
De l'implacable Ninja,
ouais.
Menahem Golan.
Oui, ah tiens, ça me disait aussi.
Le pote à Globus.
Oui, forcément.
Eh ouais, pas. Un Golan, ça se loupe pas, surtout en 81, quoi, tu vois.
Oui, la bonne époque, celle où ils avaient
c'est
presque.
La bonne époque, oui.
Celle où ils avaient presque pas de budget encore.
Alors dans la même veine, un petit peu mardi sur RTL9. Et c'est du moins 12, hein, tout ce dont je vous parle. American Dragons à 20h45 de Ralph Hellmaker. En 97 avec Michael Biehn, ouais, Michael Biehn quand même, Park Yoon-hoon, Kari Hiroyugi Tagawa,
ouais.
Et Iron Man dans American Dragons mardi prochain.
Ouais, il a bien lui.
Ah ouais, c'est American sur RTL9. Il y a également mardi prochain Robin des Bois sur TV Braise, mais le film qui est mieux que le Kevin Costner. Alors j'aime bien parce que ils disent que dans la critique du film, ils disent que le film avec Kevin Costner, il est mieux que celui-là parce qu'ils sont sortis à la même époque en 91, hein, celui-là il est sorti, c'est celui de John Irwin, version plus ou moins téléfilmée, enfin ils disent que c'est un téléfilm mais c'est quand même je crois sorti au ciné, il me semble, pas partout, avec Patrick Bergin dans le rôle de Robin des Bois, Uma Thurman dans le rôle de Marianne.
Ah ouais.
Et c'est surtout parce que il y a un casting de second couteau. Bon, il y a Michael Wincott dans l'autre avec
Et Alan Rickman aussi.
Et Alan Rickman, mais là il y a Jürgen Prochnow, Edward Fox, ouais. Et Jeroen Krabbe. Ah ouais, attention. Ça dépend. Non, il est mieux, il est plus sombre et tout. Moi je le préfère, quoi, quand même. Mercredi prochain, 22h25, Sale Nuit sur 13ème rue, encore moins 12 de Gavin Wilding, 1997, avec John Stockwell, Kevin Dillon, Andrew McCarthy, Taylor Dane et Mario Van Peebles. Alors, c'est une histoire qu'on a déjà vue, c'est le même genre d'histoire que dans Very Bad Things, mais avec l'humour noir en moins. C'est-à-dire l'histoire d'un mec qui enterre sa vie de garçon et puis ça finit trash, quoi. Donc, il cherche à sauver les meubles. Mais bon, ça vaut quand même, ça vaut le coup quand même. Et je termine par un chef-d'œuvre quand même, jeudi prochain à 22h25 sur TF6. À 22h25, c'est un moins 12, c'est Croix de Fer de Sam Peckinpah. Avec James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, David Warner et Senta Berger. Bon, on se demande ce qu'elle fout là, mais bon, il fallait bien qu'il y ait une nana quand même. Le film est magnifique, c'est le seul film de guerre qu'il ait fait. Non, c'est le seul, hein, il me semble, hein, qu'il ait fait, Peckinpah. Mais alors là, bon, ok. Et je crois que c'est son avant-dernier film en plus, quoi. Mais là, vraiment, à regarder, sans problème, c'est du haut de gamme. Croix de Fer, jeudi prochain, à partir de 22h25, c'est sur TF6.
Eh oui, quand même, hein. 13h34 minutes top sur l'horloge atomique de Radio Éphémère. Thomas, peux-tu faire le résumé, je te prie, pour ceux qui ont pris le supplément week-end d'aujourd'hui en cours de route?
Eh bien, on a dégusté des cookies de Christine, on a eu le plaisir d'accueillir...
Non, c'est pas des cookies, c'est des gâteaux au chocolat.
Des gâteaux au chocolat. On a eu le plaisir d'accueillir Didier Passamonique au téléphone autour de la polémique sur Tintin au Congo. On a eu de la BD médicale, on a eu deux polars chroniqués et deux films d'animation, du comic box sur les Ultimates, un top 5 spécial gunfight, du soap hollandais du sport et 35 minutes de débordement.
Nom d'un chargeur infini.
Ils ont loupé tout ça.
Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, le lien vers la recette de cuisine et aussi vos commentaires, n'hésitez pas, ainsi que toutes les précédentes émissions d'ailleurs. Et on est en train de finaliser la nouvelle version du site.
Avec des images.
Ouais, ce sera un petit peu plus joli, voilà. Hein. J'ai quasi fini le... des trucs, c'est Thomas qui s'occupe de l'infographie derrière, voilà. La suite des programmes sur Radio FMR, je suis pas en forme là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai tout de suite, ça c'est du sport. À 15h direct de la radio du Festival Guindou, donc on retrouvera, je sais pas qui c'est qui est celui... C'est qui, c'est Bruce, je suppose.
Non, c'est Monique qui est sur place.
C'est Monique qui est sur place, d'accord, ok. À 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Made in Trance, 20h La Citéro Experience, 21h 39 Love. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour le supplément week-end. Vous écoutez Radio FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Et si vous cherchez le site internet de la radio, vous cherchez supplément week-end FMR sur Google. Vous allez voir, vous allez trouver tout de suite. C'est génial la technique. Ciao, bye.